Du besoin d'un encastrement social des marchés. Dans La Grande Transformation, Polanyi propose en 1944 une analyse magistrale de la façon dont l'idéologie du marché autorégulé du XIXe siècle a conduit, selon lui, à la destruction des sociétés européennes depuis 1914 et finalement à la mort du libéralisme économique. On sait maintenant que cette mort n'était que temporaire. Dès 1938, des économistes et intellectuels libéraux se réunissent à Paris pour préparer la suite. Conscient que la doctrine libérale d'avant 1914 a perdu la partie, inquiet des succès du planisme et du collectivisme, tétanisé par le choc annoncé des totalitarismes, même si le mot est encore peu utilisé, ils ont pour but de réfléchir aux conditions d'une possible renaissance de ce qu'ils proposent alors de nommer le néolibéralisme. Parmi les participants à ce colloque, Walter Lippmann, du nom de l'essayiste états-unien à l'origine de cette rencontre parisienne, figurent en réalité des personnes au point de vue très différent, certains proches de la social-démocratie et d'autres défendant le retour à un libéralisme économique pur et dur, avec notamment Friedrich Hayek, l'un des inspirateurs d'Augusto Pinochet et de Margaret Thatcher dans les années 1970 et 1980, sur lequel nous reviendrons. En attendant, attardons-nous un peu sur le récit de Polanyi, qui conserve toute sa pertinence pour analyser l'effondrement des sociétés de propriétaires. Polanyi n'utilise pas explicitement les termes de société de propriétaires, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Quand Polanyi rédige La Grande Transformation, entre 1940 et 1944 aux États-Unis, l'Europe est en pleine pulsion autodestructrice et génocidaire, et la foi dans l'autorégulation est au plus bas. Pour l'économiste et historien hongrois, la civilisation du XIXe siècle s'appuyait sur quatre piliers. L'équilibre des puissances, l'étalon or, l'état libéral et le marché autorégulé. Polanyi montre en particulier comment la croyance absolue dans la capacité régulatrice de l'offre et de la demande pose de sérieux problèmes quand on l'applique sans limite au marché du travail, un marché dont le prix d'équilibre, le salaire, engage les conditions de vie et de survie de l'espèce humaine. Pour que l'offre baisse et que le prix remonte, il faut qu'une partie de l'espèce disparaisse, ce qui était à peu de choses près la solution envisagée par les propriétaires britanniques lors des famines en Irlande ou au Bengale. Pour Polanyi, qui croit en 1944 dans la possibilité d'un socialisme démocratique non communiste, l'économie de marché doit faire l'objet d'un encastrement social, ce qui, dans le cas du marché du travail, signifie que la formation des salaires, l'accès aux qualifications, les éventuelles limitations posées à la mobilité du travail, ainsi que l'existence de compléments de salaire financés collectivement, doivent faire l'objet d'une négociation sociale et politique en dehors de la sphère du marché. De même, problème d'encastrement se pose pour le marché de la terre et des ressources naturelles, qui sont disponibles en quantité finie et périssable, et pour lesquelles il serait illusoire de penser qu'une régulation par l'offre et la demande entre les forces marchandes en présence pourrait suffire à garantir un usage social raisonné. En particulier, donner tous les pouvoirs aux premiers propriétaires de la terre et du capital naturel n'a guère de sens, et leur garantir ce pouvoir jusqu'à la fin des temps encore moins. Enfin, s'agissant du marché de la monnaie, intimement lié à la finance d'État, Polanyi montre comment la croyance dans l'autorégulation, doublée de l'extension du champ du marché et de la monétisation généralisée des relations économiques, a placé les sociétés modernes dans un état de grande fragilité. L'entre-deux-guerres est le moment où cette fragilité apparaît dans toute sa violence. Dans une économie devenue entièrement marchande et monétisée, la débâcle de l'étalon or et la désintégration monétaire ont en effet des conséquences incalculables, qui explosent au grand jour dans les années 1920. Des groupes entiers sont paupérisés, alors que des spéculateurs amassent des fortunes, ce qui nourrit la demande pour un pouvoir fort et autoritaire, notamment en Allemagne. Des fuites de capitaux font chuter des gouvernements, y compris en France, dans des conditions et avec une célérité inconnue au XIXe siècle. La compétition impériale et l'effondrement de l'équilibre européen. Enfin, Polanyi rappelle que l'idéologie de l'autorégulation s'appliquait également à l'équilibre entre puissances européennes. De 1815 à 1914, on s'imagine que l'existence de grands États-nations européens de taille et de puissance comparable, unis dans la défense de la propriété privée, de l'étalon or et de la domination coloniale sur le reste du monde, devrait suffire à garantir la pérennité du processus d'accumulation du capital et la prospérité du continent et du monde. Cet espoir de concurrence équilibrée vaut en particulier pour les trois sociétés impériales, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, qui visent chacune à promouvoir leur assise territoriale et financière et leur modèle culturel et civilisationnel à l'échelle mondiale, sans réaliser que leur volonté de puissance les rend sourdes aux inégalités sociales qui les minent de l'intérieur. Comme le note Polanyi, cette nouvelle application des principes théoriques de la concurrence autorégulée était la plus fragile de toutes. Après que le Royaume-Uni a signé un accord avec la France en 1904 pour se partager l'Égypte et le Maroc, puis un autre avec la Russie en 1906 pour faire de même avec la Perse, tout cela pendant que l'Allemagne consolidait son alliance avec l'Autriche-Hongrie, deux groupes de puissances hostiles se font face dans l'attente de la confrontation totale. Il faut également souligner ici le poids évident des retournements démographiques. Les principaux États-nations ouest européens ont certes depuis plusieurs siècles des populations du même ordre. Cette réalité a d'ailleurs contribué à nourrir la concurrence militaire, la centralisation étatique précoce et les innovations financières et technologiques au cours des 15e, 18e siècles. Il n'en reste pas moins que plusieurs retournements de grande ampleur se sont produits à l'intérieur de ce schéma général. Voir graphique 10.16. Les estimations indiquées couvrent les territoires actuels de chaque pays et valent davantage pour les ordres de grandeur que pour leur précision absolue. Au XVIIIe siècle, la France est de loin le pays européen le plus peuplé, ce qui explique en partie son poids militaire et culturel. En particulier autour de 1800, la France, environ 30 millions d'habitants, est moitié plus peuplée que l'Allemagne, guère plus de 20 millions, sans compter que cette dernière n'est pas encore unifiée. C'est dans ce contexte que Napoléon entreprend de bâtir un empire européen aux couleurs françaises. Puis la population française va connaître une stagnation quasi complète pendant un siècle et demi, à peine plus de 40 millions d'habitants en 1950, pour des raisons qui sont d'ailleurs imparfaitement comprises et qui semblent être liées à une déchristianisation et à une maîtrise des naissances particulièrement précoce. À l'inverse, l'Allemagne connaît au XIXe siècle une croissance démographique accélérée et réalise de surcroît son unité politique autour d'un projet impérial. En 1910, l'Allemagne est maintenant moitié plus peuplée que la France. Plus de 60 millions d'Allemands pour environ 40 millions de Français. Sans en faire la cause unique des affrontements militaires à répétition, il est bien évident que de tels retournements peuvent donner des idées. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la France croit tenir sa revanche de la guerre de 1870-1871, et elle exige d'énormes réparations allemandes. L'affaire est bien connue, sauf que l'on oublie généralement de préciser les montants et leur signification. Or, les sommes officiellement demandées à l'Allemagne sont totalement invraisemblables. Suivant les décisions du traité de Versailles de 1919 et de la commission des réparations qui en précise les termes en 1921, l'Allemagne est supposée rembourser 132 milliards de marks or, soit plus de 250% du revenu national allemand de 1913, et environ 350% du revenu national allemand de 1919-1921, compte tenu de la baisse entre les deux dates. On notera qu'il s'agit approximativement de la même proportion du revenu national que la dette imposée à Haïti en 1825, autour de 300%, dette que le pays traîna comme un boulet jusqu'en 1950, à la différence près que le revenu national allemand est beaucoup plus important à l'échelle de l'Europe et du monde. Du point de vue des autorités françaises, le montant se justifie. Après la défaite de 1871, la France avait payé rubis sur l'ongle 7,5 milliards de francs or, soit environ 30% de son revenu national, et les dégâts causés par les combats de 1914-1918 sont autrement plus importants. Les négociateurs français et britanniques insistèrent également sur le fait qu'il fallait récupérer des sommes en rapport avec les énormes dettes publiques qu'ils avaient eux-mêmes contractées vis-à-vis de leurs propriétaires et épargnants, et qu'ils avaient à ce moment-là bien l'intention de rembourser et d'honorer ainsi la parole sacrée qui leur avait été donnée pour financer la guerre. Il reste que les sommes exigées plaçaient l'Allemagne dans un état de dépendance éternelle vis-à-vis des vainqueurs, et notamment de la France. Il n'y avait pas besoin d'être un grand statisticien pour le comprendre, de même que pour comprendre l'écart démographique grandissant entre les deux pays. Et les acteurs politiques allemands de l'entre-deux-guerres se chargèrent avec soin de l'explication de textes vis-à-vis de leurs électeurs. Avec un taux d'intérêt de 4%, le simple paiement des intérêts sur une dette de 350% du revenu national aurait impliqué que l'Allemagne transfère chaque année de l'ordre de 15% de sa production au cours des années 1920 et 1930, tout cela sans même commencer à rembourser le principal. Insatisfait du rythme de paiement, frustré par la petitesse des actifs étrangers allemands, que les alliés franco-britanniques avaient saisis et s'étaient immédiatement partagés en 1919-1920, de même que les maigres colonies allemandes, le gouvernement français envoya ses troupes occuper la Ruhr en 1923-1925, avec pour projet de se servir directement dans les mines de charbon et les sites industriels. Les troupes prussiennes n'avaient-elles pas, elles aussi, occupé la France jusqu'en 1873, jusqu'à ce que le tribut de 1871 soit versé dans sa totalité? La comparaison était peu probante. D'une part, car l'état de dévastation de l'Allemagne des années 1920 n'avait rien à voir avec celui relativement florissant de la France des années 1870. D'autre part, car les sommes exigées étaient plus de 10 fois plus élevées. Mais elle emportait l'adhésion d'une bonne partie de l'opinion française, elle aussi durement éprouvée par le conflit. L'occupation de la Ruhr eut peu d'effet, à part celui d'exacerber le ressentiment allemand à un moment où le pays s'enfonçait dans l'hyperinflation et où le niveau de production était toujours 30% inférieur à celui de 1913. Les dettes allemandes furent finalement annulées en 1931, alors que le monde entier avait sombré dans la Grande Dépression et que toute perspective de remboursement avait définitivement disparu. On sait maintenant que tout cela ne fit que préparer le chemin vers le nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Le plus absurde dans cet acharnement français, dénoncé avec force à l'époque par les observateurs anglo-saxons les plus lucides, est que les élites politiques et économiques du pays finirent par réaliser, dans le courant des années 1920, que le paiement de telles sommes pouvait avoir des conséquences indésirables pour l'économie française. Pour rembourser annuellement l'équivalent de 15% de sa production, il aurait en effet fallu que l'Allemagne réalise année après année un excédent commercial équivalent à 15% des richesses produites. Il s'agit bien d'une seule et même opération sur le plan économique. Or, un tel excédent commercial allemand risquait d'empêcher le redémarrage de la production industrielle française et par là même de limiter les créations d'emplois et d'accroître le chômage ouvrier en France. Au XIXe siècle, les États se versaient des tribus militaires sans se poser ce type de questions. Ces opérations étaient envisagées comme un pur transfert financier entre puissances étatiques, à charge pour chacune de s'organiser avec ses propriétaires, épargnants et contribuables. Il en va autrement dans un monde où les différentes économies nationales et leurs multiples secteurs d'activité étaient devenus étroitement liés les uns aux autres, dans le cadre de relations de concurrence visant à séduire les mêmes acheteurs transnationaux. On prit alors conscience que ces transferts financiers, au travers de leurs contreparties commerciales, pouvaient avoir dans certains secteurs des effets négatifs sur le niveau d'activité économique, l'emploi et finalement la classe des travailleurs et des ouvriers. Or, la promotion du développement industriel, du plein emploi et de la qualité de l'emploi, ainsi que du niveau de la production nationale en tant que telle, était précisément en passe de devenir une préoccupation majeure des gouvernements. De fait, dans une société où l'on se soucierait uniquement d'accroître le niveau de production et d'emploi sur le territoire national, quitte à accumuler des excédents commerciaux infinis dans le reste du monde sans jamais les utiliser, cela n'aurait strictement aucun intérêt d'imposer un tribut financier à son voisin, puisque cela le conduirait à réduire ses achats. Un monde où l'on survalorise la production et le travail est très différent idéologiquement et politiquement d'un monde qui s'appuie sur la propriété et les revenus issus de la propriété. Le monde qui s'effondre en 1914-1945 est un monde de la démesure coloniale et propriétariste, un monde où les élites continuent de raisonner en termes de tributs coloniaux de plus en plus exorbitants et qui ne comprennent pas les termes et les conditions d'une possible réconciliation sociale. On notera au passage que le monde de la démesure productiviste et mercantiliste, où la production et l'excédent commercial deviennent un but en soi, en partie peut-être pour se protéger des marchés financiers internationaux et de leurs retournements, est à sa façon tout aussi absurde que celui de la démesure propriétariste et coloniale. D'un tribut militaire hors norme à un nouvel ordre guerrier. Ce tribut de 300% du revenu national exigé de l'Allemagne est important, car il est dans la droite ligne des pratiques antérieures, et en ce sens parfaitement justifié aux yeux des créanciers britanniques et surtout français, et en même temps parce qu'il conduit au point de rupture du système. Cet épisode contribua à convaincre une partie importante de l'opinion allemande que la survie des peuples à l'âge industriel et colonial dépendait avant tout de la puissance militaire de leur État, et que seul un pouvoir fort leur permettrait de relever la tête. Quand on relit aujourd'hui Mein Kampf, le plus glaçant n'est pas tant la composante antisémite maladive, bien connue et anticipée, mais plutôt la dimension quasi rationnelle de l'analyse des relations interétatiques et aussi la rapidité avec laquelle le processus électoral peut conduire au pouvoir ce type d'analyse et de frustration. Dès les premières lignes, tout est dit. Le peuple allemand n'aura aucun droit à une activité politique coloniale tant qu'il n'aura pu réunir ses propres fils en un même État. Un peu plus loin, l'auteur distingue clairement un colonialisme commercial et financier, permettant à un peuple de s'enrichir grâce aux profits lointains apportés par le reste du monde, et un colonialisme continental et territorial, où un peuple peut véritablement s'investir et développer des activités agricoles et industrielles. Il rejette le premier modèle, celui des empires britanniques et français, qu'il assimile à des pyramides qui reposent sur leurs pointes, avec de minuscules territoires métropolitains et une population déclinante dans le cas de la France, ce qui est rappelé en permanence, tentant de capter les profits de colonies immenses et éloignées, formant ainsi un ensemble disparate qui lui paraît fragile. Selon lui, la puissance des États-Unis s'appuie au contraire sur une forte base territoriale et continentale, d'un seul tenant, habité par un peuple certes moins homogène que le peuple allemand, mais avec lequel il partage de solides origines germaines et saxonnes. L'auteur en conclut que la stratégie territoriale est plus saine que le colonialisme commercial et financier, surtout s'agissant du peuple allemand, en pleine explosion démographique. Pour assurer la cohérence de l'ensemble, l'expansion territoriale doit se faire en Europe et non seulement au Cameroun, car aucune volonté divine n'impose de voir un peuple posséder 50 fois plus de territoire qu'un autre. La Russie est visée. Dans cet ouvrage rédigé en prison en 1924, en pleine occupation de la Ruhr, et publié en deux volumes en 1925-1926, quelques années avant la prise du pouvoir en 1933 par le Parti National Socialiste, NSDAP, Hitler exprime aussi et surtout sa haine des sociaux-démocrates, des élites éduquées, des bourgeois apeurés et de tous les pacifistes qui osent prétendre que le salut du pays viendra de la contrition et de l'internationalisme, alors que seule la force et le réarmement peuvent permettre à un peuple uni et à son État d'exister dans le monde industriel moderne. Sur ce point, force est de constater qu'il a assez bien intégré les leçons de l'histoire et de la montée en puissance de l'Europe, qui s'est effectivement appuyée de façon décisive de 1500 à 1914 sur la domination militaire et coloniale et sur la politique de la canonnière. Sa détestation de la France, pays démographiquement déclinant, qui a juré la perte de l'Allemagne en lui imposant un infâme tribut, dont le montant est régulièrement rappelé, est renforcé par le fait que l'occupant français a fait venir des hordes de nègres qui prennent leurs ébats jusqu'au bord du Rhin, sans doute des troupes coloniales dont il a entendu parler ou croisé la route. Cette évocation de la possibilité d'une république nègre au cœur de l'Europe revient d'ailleurs régulièrement. Au-delà de ses saillies sur les Noirs et les Juifs, le cœur de son objectif est bien de convaincre son lecteur que les internationalistes et les pacifistes ne sont que des rêveurs et des lâches, et que seule l'unité absolue du peuple allemand autour d'un État fort permettra de relever la tête. Il dénonce une dernière fois les lâches dirigeants allemands qui n'ont pas su reprendre le combat et se dresser militairement contre l'occupant français en 1923-1924. Et il conclut l'ouvrage en annonçant au lecteur que le NSDAP est maintenant prêt à accomplir sa tâche historique. Le plus glaçant est évidemment que cette stratégie a été couronnée de succès jusqu'à ce qu'elle se retrouve finalement confrontée à une force militaire et mécanique supérieure. En 1927, dans « La trahison des clercs », l'essayiste Julien Benda accusait la classe des clercs, dans laquelle il englobait les prêtres, les savants et les intellectuels, d'avoir succombé aux passions nationalistes, racistes et classistes. Après avoir passé, selon lui, plus de 2000 ans à modérer les passions politiques et l'ardeur des guerriers et des gouvernants, depuis Socrate et Jésus-Christ, va-t-il jusqu'à préciser, les clercs n'ont pas su s'opposer aux pulsions de mort et à la montée sans précédent des antagonismes identitaires en Europe depuis le début du XXe siècle, quand ils ne les ont pas eux-mêmes attisés. S'il en veut particulièrement aux clergés et aux professeurs allemands qui, d'après lui, ont succombé en premier aux sirènes de la guerre et du nationalisme en 1914-1918, c'est bien toute la classe des clercs européens qui est prise à partie. En 1939, l'anthropologue et linguiste Georges Dumézil publiait « Mythe et Dieu des Germains », un essai d'interprétation comparative, dans lequel sont analysés les liens entre les mythologies des anciens Germains et les conceptions et représentations religieuses des Indo-Européens. L'auteur s'est retrouvé dans une polémique particulièrement vive dans les années 1980, où on l'accusait de connivence avec le nazisme, ou tout du moins de participation à une tentative de justification anthropologique de l'ardeur guerrière venue de l'Est. En réalité, l'auteur était un conservateur français de tendance monarchiste, peu suspect d'hitlérisme ou de germanophilie. Il entendait montrer dans son livre que l'idéologie trifonctionnelle des anciennes mythologies germaines était structurellement et anciennement déséquilibrée du fait de l'hypertrophie de la classe guerrière et de l'absence d'une véritable classe sacerdotale et intellectuelle. À l'inverse, par exemple, du cas indien, où les brahmanes ont généralement dominé les kshatriyas. Ces références à des logiques trifonctionnelles, en plein cœur de l'entre-deux-guerres, peuvent sembler surprenantes. Elles illustrent de nouveau le besoin de donner du sens aux structures inégalitaires et à leurs évolutions, et en l'occurrence à l'émergence d'un nouvel ordre guerrier en Europe. Elles rappellent également que l'idéologie propriétariste n'a en réalité jamais cessé de mobiliser le registre trifonctionnel pour justifier l'inégalité. L'envol économique de l'Europe doit peu à ses vertueuses et paisibles institutions propriétaristes et bien davantage à la capacité des États européens à maintenir l'ordre à leur profit au niveau international, en s'appuyant à la fois sur le registre de la domination guerrière et militaire et sur celui de leur supposée supériorité civilisatrice et intellectuelle.